Tant qu'il faut sur ces questions méthodologiques, parce que le groupe a besoin d'avoir une dynamique qui ne peut pas être constituée simplement du travail qu'on va faire sur les articles les uns après les autres. Encore d'autres questions préalables ? Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour commencer qu'on aborde en tant que premier texte la DDHC ?
Tout à fait.
Oui. Ah. Commencer par la base.
Non, là,
commencer par la base. Peut-être, moi j'ai peut-être une question.
Alors, oui.
Qu'est-ce qu'il y avait avant la constitution de 58 ?
Alors,
je suis de 62,
Bénédicte pose une question. Qu'est-ce qu'il y avait avant la Constitution de 58 ? Alors, la Constitution de 58, ça marque le passage de la 4e République à la 5e République.
Ouais, mais donc, alors, c'était quoi le régime avant ?
Je vais répondre. Il y avait la Constitution de la 4e République,
ouais,
qui a duré de 1945-46 à 1958. Et donc, c'était la Constitution de la 4e République dont on a conservé le préambule dans la Constitution de 58. Alors, il y a une chose, il y a un document qui est extrêmement intéressant, qui est le petit bouquin où il y a toutes les constitutions françaises. Il y en a 8 ou 9. Alors, à mon avis, il est plus intéressant à lire quand on a déjà étudié celle de 50, qu'on est déjà bien dedans. Parce que, comme on a déjà tourneboulet, décortiquer les mécanismes, on dit, ah tiens, sous la 3e République, il y avait ça. Alors que si on les lit comme ça c'est un peu théorique. Une condition après l'autre, il y en a 6 ou 7 à se taper.
Il faut avoir un point de référence aussi pour pouvoir comparer, sinon on, oui, va, on lit. Puis...
Voilà. Alors ça peut faire partie, effectivement, après avoir terminer l'étude de la Constitution de 58, et si on veut entamer un essai de réécriture, ça va être intéressant à ce moment-là de reprendre les autres qu'on a fait avant pour voir les bons côtés, les mauvais côtés, mais surtout les mauvais côtés, à mon avis. Enfin,
mauvais côté, vous voulez dire dans laquelle ? La nouvelle ou l'ancienne ?
Toutes celles
qu'il y avait avant.
À mon avis, pire.
Voilà, d'accord.
La vie personnelle, hein. Puis ça dépend de quel point de vue on se place aussi.
Voilà.
Ça dépend aussi de son
ça
idéologie.
Du contexte. Hein.
Oui, l'article 2,
distance de pression. Ok. Très bien, merci.
Alors, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen commence par un premier paragraphe. Bon, alors, le protocole, hein, c'est que je lis les paragraphes et puis ensuite on en parle. Alors, les représentants du peuple français. Alors, est-ce que, enfin, a priori, lorsque vous êtes inscrit, j'ai envoyé. Vous avez tous reçu un fichier attaché à la. Oui, enfin, Donc, les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant l'ignorance, l'oubli, le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements précédents, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Ah oui, excusez-moi, j'ai une erreur. On parle bien du bonheur. Qu'est-ce que vous inspire ce premier paragraphe?
Ben, c'était déjà un peu comme maintenant.
Oui.
L'histoire n'a pas changé. Enfin, ça n'a pas changé l'histoire.
Ben, il y a une critique. Il y a une critique de l'état actuel et donc
ouais.
il faut
il y a des corrompus, il faut changer les choses. Il y avait déjà de la corruption, il y en a encore.
Sauf que là, ils disent que normalement, il n'y en aura plus.
C'est pas très actif. Ouais, c'est ça.
Ça sert à rien, on est barré.
Qu'est-ce que vous retenez? On est tous à peu près d'accord. Sauf qu'il y a des voix qui se lèvent contre pour dire que c'est du blablabla. Blablabla dans ce sens où on brasse. On brasse des idées. Quand on dit c'est du blablabla, c'est qu'on brasse des idées, mais on ne dit rien de précis. Est-ce qu'il n'y a quand même pas. Votre avis, hein, des choses précises qui sont dites.
Si le fait qu'on parle de corruption des gouvernements et que. Afin d'éviter la corruption des gouvernements, il faut faire une déclaration solennelle des droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme.
Moi, c'est le mot inaliénable qui me choque. Il y a le mot aliéné dedans. Hein.
Justement.
Oui, mais ça veut dire.
Ça veut dire qu'on était aliéné avant.
Non. Là, on va déjà on met pas mal de choses sur le dos. Je crois qu'on parle mal des choses.
Non, mais c'est qu'on ne peut pas. Non, maintenant, on n'est pas censé.
Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir modifier. Hein.
Ah. Oui. D'accord. Les principes qu'on ne peut pas modifier.
Voilà.
Ah, c'est pas le cas. Hein. Pardon. Excusez-moi.
Oui. Alors, moi, il y a des choses qui me choquent, c'est déjà la troisième livre, c'est le mot sacré. Ils introduisent. En fait, les trois premières lignes, c'est une espèce de justification. De,
pourquoi
bon, c'est,
pourquoi
le texte qu'on a, non, il est justifié parce que avant, c'était pas bien, c'était donc maintenant, on va écrire quelque chose. Mais, alors, on veut affirmer les droits. On dit jusqu'à présent, les droits de l'homme n'ont pas été respectés, d'où déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On va faire un texte qui marque bien, qui va définir, qui va lister, qui va énumérer les droits de l'homme. Déclaration solennelle. Bon, je pense que vous êtes d'accord, c'est solennel. Hein. Les droits naturels, ah oui, c'est vraiment, il n'y a pas à discuter, c'est les droits. Hein. Inaliénable, alors inaliénable, ça veut dire, dans l'esprit du rédacteur de la GDHC, que ces droits qu'on va énumérer là, c'est des droits qu'on ne peut pas modifier. On peut toujours le dire. Ouais. D'autant plus que il n'y a pas, dans la DDHC, contrairement à la Constitution de 58, d'article à la fin qui dit cette déclaration pourra être modifiée selon telle et telle procédure. C'est inaliénable. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est le mot sacré. Mais je pense qu'il faut le ramener à l'époque. Hein, on était encore quand même. Et le mot sacré, il faut le prendre comme un peu un synonyme d'inaliénable. Hein. Le pendant, disons, c'est le sabre et le goupillon. Inaliénable, c'est par le sabre, et sacré, c'est par le goupillon. Voilà, ça peut choquer de pas. Alors, par contre, si on avait comme objectif de toiletter le DDHC, à mon avis, il faut plus que toilettage, mais enfin, bon, si. On pourrait l'enlever, ça, sacré, parce que maintenant. Et puis, alors, il y a une chose que je retiens aussi, cette fois, bon, par contre, en positif, puis bon, dire si vous en pensez, c'est quand on dit afin que les droits des citoyens, la façon dont ils peuvent agir, leurs réclamations, c'est-à-dire leur intervention dans l'organisation politique, finalement, soit fondée désormais, ce n'était pas le cas avant, sur des principes. Ça c'est nouveau. C'est nouveau. On fonde le droit sur des principes, c'est vraiment une énorme révolution. Puisque avant, le mot principe, c'était contraire au principe, contraire à la monocratie. La monocratie, c'était le gouvernement et notamment l'édiction de lois par un homme seul. N'oubliez pas la fameuse phrase de Louis XIV, « L'État, c'est moi ». Vous souvenez les circonstances dans lesquelles Louis XIV a prononcé cette fameuse phrase. Et Louis XIV était à la chasse. Voilà. Et puis, on vient de dire, sire, il y a les États généraux. Alors, les États généraux, c'était une espèce d'embryon de conseil avec des représentants. Les États généraux de Paris, là, qui sont en train de proposer un certain nombre de choses. Et puis, sire, on a entendu les États généraux parler de l'intérêt de l'État. C'est-à-dire que, je ne sais plus à propos de quelles mesures putatives, un représentant disait, oui, dans le cadre de l'intérêt de l'État, il conviendrait que. Louis XIV fait ni une ni deux, il monte sur son cheval, il arrive, il débarque en habit de chasse dans les États généraux, et il dit, messieurs, j'entends qu'on parle de l'intérêt de l'État, mais l'État, c'est moi. Voilà. Donc, et là, la DDHC rompt vraiment avec ça, puisqu'elle dit que, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de principe. Il n'y a pas de principe, il n'y a même pas d'intérêt de l'État. L'État, c'est moi. Voilà. L'intérêt de l'État, c'est l'intérêt que moi, je dis aujourd'hui que ça doit être comme ça. Bon. Donc, on est sur une monocratie totale, et là, on dit qu'on va écrire des principes. C'est une véritable rupture considérable.
C'est logique, parce qu'ils viennent de renverser le roi.
Ils viennent de renverser le roi.
Mais on était une autorité à la place d'une autre, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était le roi qui était en lignée directe représentant de Dieu sur Terre, qui avait tous les droits, donc il n'y avait pas de principe. La notion de principe était étrangère au droit. C'était le droit du prince, le fait du prince. Bon. L'énorme rupture qu'il y a avec la DDHC, c'est de dire on va baser le droit sur des principes. On va s'apercevoir qu'après, ces principes n'en sont pas. Enfin, c'est déjà quelque chose d'extrêmement révolutionnaire au niveau de la philosophie du droit, hein, comme dirait Hegel, de dire on va fonder le droit sur des principes. Et puis, là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on dit des principes simples. Mmh. Et incontestable. Alors, il est intéressant de voir que la DDHC, qui constitue quand même le cadre idéologique, dit qu'il faut des principes simples. On va voir, en fait, tout notre corpus législatif, non seulement il n'y a pas de principe, et quand il y en a, ils sont bafoués, et que c'est surtout pas la simplicité qui compte, mais la complexité. Or, il y a bien écrit dans la DDHC qu'il faut des principes. Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous soulignez là? Ah oui, bah l'histoire du bonheur, qui n'est effectivement, qui est un héritage, en tout cas, quelque chose qui vient, comme le disait Hugo, de la déclaration d'indépendance américaine. Mais qui n'est repris, c'est repris, là, on verra que la notion de bonheur, elle n'est jamais présente hein, dans les autres textes.
C'est un peu particulier, la notion de bonheur.
Difficile à définir.
Qu'est-ce que c'est le bonheur?
Oui, c'est quoi le bonheur?
C'est plutôt philosophique.
Alors,
ça dépend, hein, parce qu'au bout du temps, il y a bien un indicateur qui n'est pas le PIB, mais qui
PNB.
Est
le
PNB.
Oui, est-ce que c'est le bonheur, l'indicateur en fait, le bonheur, c'est quelque chose de subjectif.
Oui, mais au bout du temps, justement.
Au bout du temps, ils ont essayé de le quantifier.
Ils l'ont mis dans la Constitution, où justement, ils quantifient le bonheur. Et donc, ils ont un indicateur qui.
C'est un.
Apparemment, si vous voulez l'un des pays les plus heureux dans le monde, ça, je ne suis pas sûr.
Oui, mais est-ce que la richesse apporte le bonheur?
Ben,
est-ce que le capital ou l'argent permet à tous d'être dans le bonheur? Voilà, on est dans la philosophie, évidemment, mais c'est purement philosophique.
Pour rester sur la esthétique, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut... Alors, ça me fait penser également à un élément méthodologique qu'on a oublié. Est-ce qu'il y a un volontaire pour faire le compte-rendu de la séance?
Il y a un volontaire pour le compte-rendu?
Oui, faire le PV.
Je ne suis pas sûr de que j'ai qualifié, mais en tout cas, j'ai appris à partir des notes que j'ai prises, je suis en mesure de faire quelque chose. Je ne dirais pas que c'est parfait non plus.
La question, ça n'a pas été, est-ce que quelqu'un se sent capable de faire un compte rendu parfait? La question a été tout à fait, est-ce qu'il y a un volontaire pour faire un compte rendu?
Super.
Sur cette notion de bonheur, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est, enfin, me semble, hein, c'est qu'elle est inscrite dans la DDH, donc dans la Constitution, mais qu'ensuite, elle ne va jamais être déclinée, jamais être prise. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant.
Ça vient de Rousseau, le bonheur. L'homme.
Oui, ça vient de Rousseau. Oui, d'ailleurs les acteurs de la l'indépendance américaine étaient très influencés par Rousseau. D'abord, Rousseau est l'idéologue de la Révolution française. Hein, c'est de Rousseau qu'on tient la fameuse catégorisation des modes d'exercice du pouvoir, avec les trois catégories qu'il propose, c'est-à-dire la monarchie ou monocratie, exercice du pouvoir par un homme seul. Deuxième mode d'exercice du pouvoir, l'oligarchie ou oligocratie, que Rousseau appelle aussi aristocratie, exercice du pouvoir par un groupe restreint, par un nombre restreint de personnes. Et puis, démocratie, exercice du pouvoir par tout le monde, par les citoyens. Et si on fait l'étymologie, bien sûr, ça vient du grec. Qu'est-ce qui vient par du grec? Monocratie, c'est l'association de monos et de kratein. Monos, ils vont dire seul, et kratein, ils vont dire commandé. Monos, kratein, monocratie. Avec son synonyme, enfin sa variante, monos, archein, monocratie, monarchie. Monocratie, monarchie. Alors, la différence entre kratein et archein, c'est que c'est tous les deux commandés, mais il y a une petite nuance de différence. Kratein, ce serait le commandement par la force, et archein, ce serait le commandement par la règle. Donc, dans la différence qu'il y a entre monocratie et monarchie, monocratie, c'est plutôt l'exercice du pouvoir par un homme seul, par la force brutale. Et monarchie, l'exercice du pouvoir par un homme seul, mais par la règle. Bon, c'est l'idée, mais bon, ça c'est quand même très très... Hein.
Et donc du coup, démocratie, c'est alors, la force.
Alors, on va continuer la déclinaison, c'est très intéressant. Oligos kratein, c'est oligocratie. C'est-à-dire l'exercice du pouvoir pour un nombre restreint, mais pas de façon, assez brutale. Oligarchie, oligos archein, exercer du pouvoir par un nombre restreint, mais par la règle.
Par la persuasion, par
le voilà. Bon. Et alors, démocratie. La démocratie, c'est exercer du pouvoir par tout le monde, par kratein, boum, ça fait comme ça. Et alors, si on voulait faire archein, on aurait démarchie. Démarchie, qui est un terme qui n'est pas utilisé. un seul philosophe l'a utilisé, c'est Friedrich Hayek, le prix Nobel 1976, qui a proposé, donc qui a beaucoup écrit sur le droit, c'est un philosophe du droit, plutôt libéral hein, que disons socialiste, et qui a proposé, en toute logique, si on veut opposer, faut pas opposer l'oligarchie et la démocratie, il faut opposer la démocratie à l'oligocratie et à la monocratie. Et c'est pour ça que, bon, nous, dans nos écrits, hein, le groupe dont je vous ai parlé, on parle plutôt d'oligocratie que d'oligarchie. Bon, là, on est dans des petites, disons, petites subtilités sémantiques, mais puisqu'on a posé la question, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout. Donc Rousseau a dit il faut instaurer la démocratie, et dans le contrat social, il justement fait une étude critique de ce qui se passe en Angleterre, où ils ont commencé à avoir un parlement. Il dit non, mais là, les représentants, non, la loi ne va pas être faite par des représentants qui soient nommés de telle et telle manière, il faut que la loi soit faite par le peuple. Bon. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que la révolution 1789 a été faite dans cet esprit. Alors, les causes de la révolution 1789, bon, elles sont multiples et variées, il y a les famines, les émeutes de la faim, etc. etc. Mais la toile de fond idéologique politique, alors, si on voulait faire une comparaison avec les gilets jaunes, aujourd'hui, on dirait que le mouvement des gilets jaunes, il est agi à sa base par des revendications très concrètes, le niveau de vie, les taxes, etc., etc. Mais il est sous-tendu par une idéologie qui est une idéologie constituée par une réflexion sur l'exercice du pouvoir. Donc, en 1789, on a effectivement donc ces éléments constitutifs de la révolte qui sont très, très concrets, et puis un habillage institutionnel principalement issu des idées développées par Rousseau dans le contrat social, et tout le travail justement de la bourgeoisie naissante, on va dire de la classe des marchands, ça a été de faire passer des cibles pour des lanternes et de triturer ça pour qu'en fait, à la place d'une démocratie, on est autre chose. Voilà. Donc, sur ce paragraphe introductif, alors, le bonheur, voilà, il est noté, on va bien se mettre derrière l'oreille, que c'est inscrit là-dedans, dans le préambule. C'est un préambule, a priori, ça a plus de poids que tout le reste. Hein. C'est, après, le reste, c'est l'article 1. C'est censé uniquement décliner dans le concret les grandes idées qu'on a mises dans le préambule. La preuve, c'est que la phrase suivante arrive. En conséquence de tout ce qui vient d'être dit, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême. Alors, l'être suprême, vous savez tous ce que c'est ?
C'est Dieu ?
Non.
C'est Dieu de la franc-maçonnerie, quoi.
C'est la franc-maçonnerie ?
Moi, je ne le vois pas comme ça, mais...
Parce que les francs-maçons, vous pouvez opérer à ça.
Alors, je ne sais pas si on peut parler de franc-maçonnerie. Historiquement, à partir de la Révolution, une des composantes de la Révolution, ça a été aussi l'anticléricalisme.
Oui, la séparation.
Ça a été quoi, je pense. L'anticléricalisme. Et les révolutionnaires, avant même de se mettre à instituer le fameux culte de l'être suprême, à l'époque où Robespierre était chef du comité de salut public, où on montait sur le mont Valérien, je crois. Et on vénérait l'être suprême. Et l'idée, ça a été de dire non, il n'y a pas de Dieu, en fait, il y a un être suprême. Voilà. Donc on remplace le mot Dieu par
l'être supérieur,
un terme plus révolutionnaire, qui est l'être suprême, qui n'est. Voilà, c'est le côté antique, antique-grec. C'est pour ne pas dire Dieu, c'est pour dire le Dieu révolutionnaire. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est complètement obsolète. Et c'est, encore une fois, s'il fallait toiletter la DDHC, il faudrait vraiment. Mais c'est en conséquence de ça que l'Assemblée nationale reconnaît les droits suivants de l'homme et du sentier. Deux points, et là, ça démarre.
Alors, moi, il y a une chose qui m'interpelle, la silhouette suivante de l'homme et du citoyen, ils n'ont pas mis de la citoyenne. Parce que c'est nous, l'homme, il y a deux sens, l'homme en tant que mâle, et l'homme en tant qu'être humain.
Non, je ne crois pas, je pense que c'est au sens général.
Ah, moi je suis d'accord avec madame.
Pour des pays, le droit de l'homme,
ouais. Je suis d'accord avec madame. Je pense que si on devait retoiletter, il faudrait quand même remettre les femmes.
Pour l'ONU, on se base un peu aussi sur les droits du citoyen. Bon, en France, il y a beaucoup dit le droit de l'homme, comme arrange l'homme mâle, mais la femme.
Ah non, le peuple, je veux dire, ça va. Je ne peux pas englober tout, peuple, citoyen, tout citoyen, tout citoyen. Ouais, mais...
Bon, pour l'époque, c'était une révolution, mais ouais. À l'heure actuelle, moi, j'aimerais bien mettre...
Le droit de l'être humain, oui.
L'être humain, c'est l'homme et la femme. Bon, pour nous, en France, il n'y a peut-être pas de problème, mais c'est quand même un test qui est un peu international, et pour des
moi, pays, je suis tout à fait d'accord.
L'homme, c'est le mal, hein. En Angleterre, par contre, c'est human rights. Human, c'est l'être humain.
L'être humain.
Donc,
ouais.
C'est pas mal.
Oui, mais c'est, vous avez raison.
Oui. Ou alors, on met de l'homme, de la femme et des citoyens et citoyennes.
Mais l'être humain, ça.
Mais des enfants,
ça englobe aussi les enfants.
Mais son sang. Oui, l'être humain, on englobe. C'est ce que je dis, c'est citoyen, c'est que. C'est pareil. La notion de citoyen, c'est. À partir de quand on est citoyen, quoi.
C'est la réaction d'époque. Hein.
Oui.
Les femmes ont eu le droit de vote.
En 45.
Voilà.
Ouais.
Et que pendant tout l'apprentissage, le début des Républiques, première République, deuxième République, troisième République, la troisième République, en tout cas, la femme n'avait pas le droit de vote. Donc on parlait au masculin.
Ouais.
Alors, là encore, si on fallait pas les
droits. Elle a failli avoir le droit de vote. C'était mise à l'épreuve
Jean-François.
Et puis c'est quand même la majorité qui a emporté, ne vote pas, mais il y a beaucoup. Alors qu'après, on ne posait pas tellement la question sur la deuxième république. La question n'a jamais été posée. Commencer les suffragettes ont commencé sur la troisième république.
Le
19. Ça a commencé, oui. Bah, les revendications ont commencé. Oui.
C'était avant, à Colombe du Bouge, pendant la révolution, il y avait déjà des proto-féministes.
Oui.
Par rapport à la révolution de
89,
je veux dire.
C'est les femmes qui ont marché sur Versailles.
Pas d'autres,
mais. C'est les femmes qui ont marché sur Versailles.
Et on pourrait même dire ouais. Tout être humain, puisqu'il y a aussi les trans, les hommes qui se
transforment.
C'est le genre humain. Le genre humain, quoi.
Oui.
Ça, c'est en général.
On est d'accord pour le coup. On va voir ça, mais c'est pas ça qui va être vraiment
en cause. Alors, excusez-moi, ce qui m'interpelle plus, c'est qu'aujourd'hui, on a un préambule donc, des déclarations des droits de l'homme qui dit qu'effectivement, le citoyen doit être à l'initiative des lois et qu'on pense à son bonheur. Et avant, on a dit que les lois ne devaient pas aller contre ça, mais au final, on est en plein dedans. Donc, comment on a pu accepter ces lois alors qu'elles vont à l'encontre justement de la déclaration ?
Par ignorance.
Ah, ben, alors, là vous anticipez, justement, la démarche, notre démarche méthodologique, c'est de voir quels sont les principes.
De base.
Alors, ça va être quels sont les principes de base dans la DDHC qui vont s'ajouter aux principes. Préambule, parce qu'il y en a un certain nombre, le 46, et éventuellement dans un domaine plus rubriqué, hein, la charte de l'environnement, quels sont ses principes, et de voir ensuite s'ils sont... mais là, au niveau de la contradiction entre les principes, de la collision entre les principes, et ça se joue au niveau du corpus législatif, c'est-à-dire les lois proprement dites, mais on va voir aussi que ça va se jouer avec certains articles de la Constitution proprement dite, qui vont qu'on va débusquer comme étant contraire au principe de. Mais bon, ce qui va nous rendre la tâche compliquée, c'est que on va voir que les soi-disant principes de la Déclaration des droits de l'homme, c'est pas vraiment des principes. C'est assez compliqué. Alors, l'article premier. L'article premier de la Déclaration des droits de l'homme. Non, mais bon, je pense que tous ces préalables sont nécessaires parce que ce travail juridique, qui a priori peut paraître extrêmement arithmétique et mathématique, on va se rendre compte qu'il y a énormément d'à peu près hein, dans nos textes civilisateurs. Alors, l'article premier. De la déclaration, c'est important, comme c'est l'article premier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Qu'est-ce que ça veut dire,
ça? Bah, en gros, si tu travailles, tu es utile, tu travailles pas.
Alors,
c'est la méritocratie, déjà.
Mais c'est le,
ça, la méritocratie.
On reste sur l'utilité générale, en fait.
Alors, est-ce qu'on peut prendre les deux parties de phrases, les unes après les autres?
Oui, parce que moi j'ai la première là.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà. Et bon, déjà, première partie de phrase, qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah, c'est plutôt positif.
C'est un peu à ça qu'on pourrait résumer tout le document, presque. Si vous demandez à bien ça demande aujourd'hui de résumer cette
déclaration. Oui, ce qu'il en retient.
Oui, c'est un peu sous ce qu'on voilà, la phrase qu'on retient.
C'est la phrase qu'on retient, quoi.
C'est la phrase qu'on retient. Oui. C'est, si, voilà, c'est effectivement si on fait un micro-trottoir, qu'est-ce que c'est que la déclaration de droits de l'homme, c'est
que les gens sont libres et...
Liberté, égalité, fraternité.
On a tous les mêmes droits.
On a une notion de fraternité.
On a quand même là-bas, les deux premiers.
Quel qu'il soit. Même si tu devais être handicapé ou ça, les mêmes droits. Ça veut dire ça demeure.
Oui, c'est ça. Oui. C'est là où c'est aussi son
qu'est-ce que vous soyez riche, pauvre, bien heureux, bien portant, riche ou misérable, on a tous les mêmes droits. D'accord. Ça veut dire ça.
Est-ce qu'il y a
d'autres observations sur cette phrase?
Bah, égaux au niveau de la justice, notamment. Moi, je pense à ça. Ou à l'heure actuelle.
En droit.
En droit. Égaux dans le droit.
En général,